RCF.
Partir une année pour se mettre au service dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale, une aventure que vivent des milliers de Français chaque année avec des organismes catholiques comme les missions étrangères de Paris, Fidesco ou encore la délégation catholique pour la coopération, la DCC. C'est l'expérience que vous avez choisi de vivre une fois à la retraite, Claude et Mylène Olivier. Bonjour.
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 Merci
bonjour
d'avoir accepté de témoigner au micro de RCF aujourd'hui. Vous habitez en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, à deux pas de la Suisse, et c'est à Madagascar que vous avez vécu une expérience de volontariat de service international avec la DCC. Mais on va voir que l'intérêt pour le travail de la terre et pour la solidarité internationale sont bien antérieurs à cette expérience. Claude, vous avez travaillé comme ingénieur agricole. Quelles étaient vos missions ?
Pendant une quarantaine d'années de travail professionnel, c'était surtout d'accompagner des exploitations agricoles dans un premier temps, puis après de travailler aussi dans le monde des artisans, du monde rural. Et j'étais responsable d'une équipe de conseillers et de comptables du CERF France au bureau de Thonon-les-Bains. J'ai eu la chance de terminer ma carrière professionnelle avec des missions, surtout au Sénégal, avec la coopération décentralisée de la région Rhône-Alpes.
Vous avez toujours été attiré par l'étranger ?
Oui, je suis né dans une ferme. Perdu, à 20 ans, disons que j'ai eu envie de partir. J'ai commencé à faire un service militaire en Polynésie, volontairement, j'ai voulu partir. Et là, j'ai découvert vraiment le plaisir de découvrir d'autres pays, d'autres civilisations. Ça a été le point de départ. Et puis après, dans ma formation, c'est surtout aussi, j'ai eu deux rencontres exceptionnelles. René Dumont, lors d'une conférence, et puis après aussi le père Vincent Cosmao. Un dominicain, un religieux, un théologien qui m'a vraiment branché sur la solidarité internationale parce que il a été le créateur du centre Lebré, créateur de foi et développement. Et vraiment, je l'ai écouté et puis après j'ai lu aussi ses livres. Ça m'a donné vraiment le goût, l'envie de vivre de la solidarité internationale.
Tout en restant attaché à la terre et j'imagine à votre terre.
Bien sûr, oui, je suis ingénieur agricole, fils de paysan, travaillant avec des agriculteurs, ayant même eu un projet d'être agriculteur, d'être paysan avec Mylène lors de nos fiançailles. On avait le projet de s'installer comme paysan, mais bon, j'ai eu un accident et qui a fait que j'ai dû changer de voie.
Et alors vous, Mylène, vous avez notamment enseigné dans un lycée rural privé. Quel est votre lien à la terre pour votre part ?
Je suis fille d'éleveurs laitiers. Mes familles maternelles et paternelles, comme pour le cas de Claude, étaient toutes paysannes. J'ai fait une formation au lycée agricole. Mon premier emploi était dans un syndicat agricole. Puis j'ai un lien particulier à la terre parce que j'ai la main verte. J'ai cette chance et j'ai développé un petit peu de compétences. Semer, planter, jardiner, récolter, ça va avec mon bien-être.
Vous avez aussi été engagé dans une association qui aide les migrants. Quelles étaient vos motivations ?
Dans les années 50, quand des paysans se déplaçaient en France, changeant de région, on disait qu'ils étaient migrants. Donc il y a quelque chose de fondateur dans cette expérience, difficile aussi. Hein.
De déracinement et de réenracinement, pour
utiliser
la métaphore agricole.
Ouais. Exactement, oui. De réenracinement. Et puis quelque chose de porteur du côté de l'ouverture. Mm. L'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Double culture, j'irai pas jusque-là, mais un peu quand même. Et j'ai été très tôt sensibilisée à cette notion de tiers-monde qui naît en même temps que moi, quasiment. Et vers 17-18 ans, je commençais à lire Croissance des jeunes nations, un magazine qui s'intéressait aux pays du Sud, le terme qu'on emploie maintenant.
Vous avez en commun, tous les deux, un engagement de très longue date au CCFD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Qu'est-ce qui vous plaît dans les valeurs de l'association et quelles ouvertures cet engagement au CCFD vous apporte ?
Nous avions, Mylène et moi, mis en place un projet de départ il y a presque cinquantaine d'années, déjà, quand on était jeune marié, de partir en volontaire de solidarité internationale au Cameroun. L'accident que j'ai parlé tout à l'heure a aussi fait que nous n'avons pas pu partir. Eh bien, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben, on va agir localement en adhérant, en participant aux réflexions du CCFD qu'on appelait à l'époque. Et puis voilà, et puis après on est parti, quand on met la main dans cette structure, eh bien on y passe facilement le bras, et puis après, non, on est très engagé. Les valeurs, oh ben c'est, ça rejoint aussi nos engagements de foi, enfin notre foi, il y avait ça. Il y avait aussi, bah, oui, cette ouverture, ce besoin d'agir pour aider des pays du Sud.
Et cette sensation qu'ici, on peut faire des choses pour les soutenir et aussi pour sensibiliser les gens. Vous aviez déjà cette intuition-là du consommateur-acteur, par exemple, qu'on a aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Déjà, le CCFD avait déjà cette notion d'agir ici et là-bas. Le ici, par l'information qu'on pouvait faire, par les réunions d'information, enfin, en étant vraiment actif au sein de ces comités diocésains. Et puis le là-bas, ben, moi, ça rejoignait mon envie de partir aussi, de connaître autre chose, de connaître des situations différentes. Et ça a vraiment nourri beaucoup toute cette participation au CCFD.
Bien sûr, j'ajouterais le mot solidarité. On ne l'a pas prononcé, mais oui. C'est au cœur de notre engagement, la fraternité. Ce qui me plaît dans le travail que fait le CCFD avec les partenaires du Sud, c'est qu'ils s'engagent sur la durée. C'est indispensable.
Vraiment. Des soutiens de projets sur du long terme.
Sur du long terme. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fait bouger les choses. J'en suis convaincue, encore plus convaincue, depuis que nous sommes allés à Madagascar. Et ce qui me plaît aussi, c'est que le CCFD soutient les initiatives de personnes qui s'organisent.
Là-bas. Des locaux qui bougent là-bas. C'est pas des volontaires d'ici qui sont envoyés là-bas.
C'est pas du tout ça. C'est vraiment le soutien. Donc, on ne fait pas à la place d'eux. Pour moi, c'est très important. Et puis, moi, j'ajouterais aussi que le CCFD Terre Solidaire a été ma première université, notamment par des formations géopolitiques avec René Valette.
Quelques mots sur la CIDI, cette filiale du CCFD Terre Solidaire spécialisée dans la microfinance. Vous vous y êtes investi, Claude. Qu'est-ce que ça apporte, la microfinance, que d'autres moyens de financement n'apportent pas?
Ça apporte des petits miracles pour des gens qui n'ont pas accès aux services bancaires quand ils sont perdus en zone de brousse ou en zone rurale. Et comme ils ne bénéficient d'aucun appui bancaire, puisque de crédit, voire de petits crédits, mais voire de services bancaires, tout simplement de dépôt d'argent. Et on organise par des mutuelles de solidarité, on appelle ça des museaux, on les forme, et ils sont des petites coopératives de banque, enfin, bancaires, dans les villages, par affinité. Et aujourd'hui, ces actions de microcrédit museaux, à la CIDI, on estime que ça touche environ 2 millions de personnes.
Wow.
Donc c'est déjà une grosse goutte d'eau.
Et dans le concret de ces museaux, les prêts que les personnes vont se faire entre elles, ça sera peut-être pour acheter tout simplement une brouette.
Ouais, un outil de travail.
Ah ben un outil de travail basique. Mais
acheter un âne pour aller au marché, pour emmener ces légumes produits. J'ai vu ça à Haïti, j'ai vu ça aussi au Niger. Enfin, c'est formidable.
Témoin. Claude et Mylène Olivier, vous êtes partis en volontariat de Solidarité Internationale à la retraite. On va y venir, on va en parler, mais d'abord j'aimerais creuser un peu ce qui vous anime. Vous savez que l'idée de cet entretien, c'est de mettre en parallèle vos itinéraires de vie et de foi. On a parlé des valeurs qui vous tiennent à cœur, de ce que vous avez trouvé au CCFD Terre Solidaire et ailleurs. Quel lien vous faites justement entre tous ces engagements et votre foi chrétienne, ce en quoi vous croyez?
Pour moi, croire, c'est faire confiance. Et ça m'engage. Et puis, je pense à deux versets de la Bible, enfin deux passages de la Bible. En Isaïe 58, Dieu qui s'adresse au prophète dit « Le jeûne que je préfère, c'est quand tu défais les liens de servitude, c'est quand tu partages ton pain, c'est quand tu accueilles. » Et puis en écho, la fin de l'évangile de Matthieu, « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, qu'est-ce que t'as fait ?» Ce qui m'anime, c'est une foi qui tend vers des actes, et surtout pas seulement des paroles.
On est des fils de paysans, on est pragmatique, on a le contact, la terre. Et pour moi, vraiment, ça m'a aidé dans mes missions, parce que c'est aussi la relation avec les autres. Un peu comme le Christ, C'est mon modèle, bien sûr.
Est-ce que c'est une foi dont vous avez hérité tous les deux? Est-ce qu'à un moment donné, vous l'êtes réapproprié à un certain âge?
Oui, c'est en partie de l'héritage. Moi, j'aimais bien dire que mes parents étaient pratiquants parce qu'ils étaient engagés dans le syndicalisme agricole, dans la banque agricole, dans les coopératives, etc. Je faisais le lien entre leur foi et leurs engagements professionnels et personnels, oui.
Moi, je dirais que ma militance au CCFD a raffermi ma foi. Mm. Il y a eu des passages, surtout entre 20 et 30 ans, je l'ai un petit peu laissé. Et puis, petit à petit, toutes ces réflexions, au sein du CCFD, mais élargi aussi à d'autres lieux de foi que nous avons soit mis en place avec des groupes d'affinités dans le Chablais ou en faisant des retraites diverses. Mmh. Vraiment, petit à petit, c'est construit pour moi une foi plus solide. Ça m'a...
Et justement, j'allais vous demander si vous étiez par ailleurs proche d'une communauté, d'une paroisse ou de groupes avec lesquels vous vivez votre foi par ailleurs.
Alors, ensemble, oui, nous sommes proches de communautés sous trois formes. Chaque dimanche où nous pouvons, nous allons chez Pierre, un vieux prêtre de 97 ans, qui célèbre dans sa salle à manger, autour de la table. Et nous sommes entre 15 et 20, ouais. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais c'est un vrai temps de partage, un vrai temps d'eucharistie, et puis toute la convivialité qui va avec. Nous faisons partie aussi d'un groupe qui n'a pas de nom. Et une fois par mois, nous nous retrouvons pour mettre en commun les fruits de lecture. Nous choisissons un livre qui a du sens pour nous et qui nous donne une certaine espérance dans l'institution catholique. Parce qu'elle est un petit peu battue en brèche, là. C'est un peu difficile. Et puis, le troisième lieu, pour moi, c'est le CCFD Terre Solidaire. Mm-hmm.
Que vous estimez être un lieu de foi pour vous aussi.
Ouais. Ah oui, vraiment, oui. Oui.
C'est une chance aussi pour nous de vivre ces trois temps, ces trois lieux de foi là, ensemble. Et puis après, cette mission qu'on va peut-être développer un peu plus à Madagascar, de le faire en couple.
Témoin, quand la foi se raconte.
Mylène et Claude Olivier, passons à cette mission à Madagascar, un volontariat de solidarité internationale vécu à la retraite. La délégation catholique pour la coopération accompagne chaque année 400 volontaires à l'étranger. Et avec une hausse ces dernières années, doucement mais sûrement, du nombre de personnes qui partent une fois leur carrière professionnelle achevée. En 2023, 13% des volontaires DCC avaient plus de 50 ans. Vous aviez eu envie, vous nous l'avez dit, de vivre cette expérience alors que vous étiez jeune. Mariée, comment est revenu ce désir au moment où vous arrêtiez vos activités professionnelles?
Personnellement, moi j'avais le désir de mettre en pratique toutes ces idées qu'on brassait, qu'on réfléchissait au niveau de groupe, de formation au sein du CCFD, le mettre en pratique. Mettre en pratique aussi mes acquis professionnels de 40 ans de consultant, de conseiller, de consultant dans le métier, dans le secteur agricole. Et puis de donner un sens à notre retraite. Sortir de notre zone de confort, parce qu'on a la chance de vivre confortablement. Nous sommes quand même issus des 30 glorieuses. On a eu un parcours professionnel vraiment lisse, toujours en développement. Enfin, et là, on s'est mis dans une zone de non-confort quand on part dans un pays, l'un des pays les plus pauvres au monde.
Mylène, vous, qu'est-ce qui vous motivait?
En mars 2019, je ferme mon cabinet de conseillère conjugale et familiale. Ça a été ma dernière activité professionnelle. Et là, je me sens assez en forme pour dire à Claude... Et si on partait maintenant, comme volontaire?
Je n'attendais que ça. Hein.
Là aussi, vos envies à tous les deux se sont bien rencontrées.
Et voilà, on en parlait de temps en temps depuis 1975, moment où on n'a pas pu partir au Cameroun. Et puis, très rapidement, ça s'est mis en marche. Un petit peu compliqué avec la crise Covid. Mais ça nous a laissé le temps de mûrir.
Le projet.
Cet report de notre départ, enfin, c'était un petit peu compliqué, mais ça, c'était pas grave.
Bon, vous êtes donc parti avec la délégation catholique pour la coopération. Avant de parler de vos missions exactes à Madagascar, où est-ce que vous étiez exactement et quelle réalité vous avez découvert?
Nous sommes arrivés dans la zone du sud-est malgache. Nous avons habité Manakar, la capitale régionale, et puis nous avons vécu au sein de cette population qu'on dit Antémour, issue de migrations anciennes venant de pays arabes ou musulmans. C'est la seconde région la plus pauvre du pays.
Qui est lui-même l'un des plus pauvres du monde.
Et les réalités que nous découvrons très rapidement sont des familles en brousse très pauvres, mal nourries, une mortalité infantile à cause du palu importante, des personnes fatiguées, usées parfois, et souriantes.
Malgré tout. Vous nous disiez, on voulait sortir de notre zone de confort. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Vous étiez prêt à ça ou finalement on ne l'est jamais tant?
Je pense qu'on était prêt, mais pour moi, je ne pensais pas que la misère, la pauvreté était aussi importante, voire aussi l'insécurité dans ces zones-là.
Alors, Mylène, vous, là-bas, votre mission, c'était de travailler pour une ONG chargée de créer des pôles de culture et de diffusion d'une plante, l'Artémisia. On voit là comme ça rejoint ce que vous nous disiez en début d'entretien, votre main verte. L'Artémisia qui est utilisée dans la médecine traditionnelle. Comment elle s'est passée, votre mission? Vous partiez un an, hein?
Moi, j'avais eu la chance, avant de partir, d'être en contact avec Lucille, la fondatrice de la Maison de l'Artémisia, l'ONG française. On a eu tout de suite une très bonne accroche et elle m'a dit, Mylène, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu serais d'accord pour créer une équipe Artémisia qui va fonder une maison de l'Artémisia sur place? Eh bien, je me suis formée, j'ai lu, je cultivais déjà de l'Artémisia dans mon jardin sans en connaître les usages.
Toutes les propriétés, notamment contre le palu.
Et voilà, cette plante est exceptionnelle parce que, enfin, je vais dire ces deux plantes. Je parle à la fois de l'Artémisia afra, qui est originaire d'Afrique. C'est une plante vivace qui est très efficace contre le palu, qui repousse les moustiques. On en fait des petites haies autour des maisons pour faire une moustiquaire à l'extérieur de la maison. Et puis l'Artémisia annua, c'est une plante annuelle, donc il faut la semer tous les ans. Dans la pharmacopée chinoise, elle est étudiée depuis 2000 ans.
Et alors, il y a le côté, tout ce produit magnifique qui va apporter aux populations locales. Et puis, il y a le côté humain, comment créer une équipe là-bas, diffuser, alors, comment ça s'est passé?
Voilà, il a fallu à la fois travailler sur le plan humain, repérer des personnes qui avaient envie de s'y mettre. Pas évidente parce que trouver des ressources humaines dans cette zone, c'est difficile. Et puis, il y a toute la partie agronomique, la partie médicinale, la partie communication, sensibilisation, formation et la partie économique à mettre en place ensuite.
Ça fait un énorme travail.
Ça fait un énorme travail passionnant.
Vous avez eu l'impression d'aboutir à quelque chose ou au début de quelque chose?
Alors, il y a eu, il y a eu un début de quelque chose. Une équipe a été mise en route. Et puis, c'est bizarre, elle s'est mise à moins fonctionner une fois qu'on a été parti. Mais chez toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, il y avait cette soif d'apprendre. Quand dans ces pays du Sud, on a au moins 25% des médicaments qui sont des faux, qui coûtent très cher, pouvoir se soigner avec les plantes du jardin, en plus, ils savent très bien faire. Donc, une de plus, c'est pas perdu, ça marchera, je suis sûre que ça marchera. Ce qui a été bien aussi, c'est que, et ça c'était bien du coup que je ne reste qu'une année, c'est que la création de l'association s'est faite en notre absence. C'est plus nous qui étions à la manœuvre.
Donc vous avez réussi à semer quand même, malgré tout. Hein.
Oui, c'est ça, je crois. Et par contre, on avait embauché un responsable en accord avec celui qui est aujourd'hui président de la Maison d'Artémisia. C'était même son idée d'abord. Et puis ce gars nous a fait un coup très tordu.
Une trahison.
Volontairement, il a disparu après 9 mois d'embauche.
Avec la caisse?
En volant en gros 6 000 euros. C'est énorme pour
Madagascar. Caisse, moto, ordinateur.
C'est énorme. Donc pour l'équipe qui avait démarré, pour les gens sur place, ça a été très difficile. Pour moi aussi, ça a été difficile évidemment. Mais ce n'est pas moi qui ai eu à subir les conséquences de ce gros coup de frein que ce jeune gars a mis à la maison de l'Artémisia. Mais tout ne s'est pas arrêté. Là, actuellement, je suis encore en lien et avec l'ONG Maison de l'Artémisia. De temps en temps, je ne suis plus en mission, mais je suis bénévole pour la maison de l'Artémisia. Et avec un missionnaire italien, Luca, un jeune missionnaire italien, qui est en train de monter un projet de formation supérieure.
Vous, Claude, en tant que chargé de mission, donc vous prodiguiez des formations, vous étiez là pour redresser des structures agricoles. Est-ce que vous avez atteint des objectifs, pour parler en termes entrepreneurial français ?
J'étais donc missionné, j'étais chargé de mission pour refonder une ONG de développement agricole qui, depuis plusieurs 3-4 ans, était vide d'action et de gouvernance. Deuxième mission aussi, c'était de redresser une coopérative apicole. Perte de producteurs, perte de coopérateurs, parce que c'était une coopérative. Perte du marché bio, parce qu'ils avaient le label étiquable. Et puis, par négligence de la qualité du miel, ils ont perdu ce label. Donc, il fallait repartir à zéro. Le marché local est très faible, pas de moyens financiers. Donc, il fallait repartir sur des marchés à l'export. Mais j'ai vite découvert que le problème premier de ce pays, c'était plutôt l'alimentation. La production vivrière, le riz. On est encore, en quelques mots, au niveau de cette région, dans une agriculture de type néolithique. C'est-à-dire qu'on travaille avec deux outils, une petite roue qu'on appelle engade, et puis un coupe-coupe, mais pas de culture attelée. Les charrettes avec zébu ne peuvent pas vraiment circuler. La réussite, elle est mitigée. L'ONG qui m'a accueilli n'était pas vraiment dans cette optique. On était plus dans une attente d'aide financière. C'est la main tendue. Mais de s'engager dans un processus de développement, ça a été dur. Donc j'ai axé sur une formation, sur de la formation, puisque j'avais quand même une pratique au Sénégal déjà, avec là plutôt de la réussite.
On a vu dans vos parcours que vous n'êtes pas novice en matière d'interculturalité, et pourtant on voit bien là que vous vous êtes frotté à vraiment une mentalité, une culture très différente. Vous vous êtes senti déplacé vraiment par cette expérience ?
Ah plutôt. On a eu la chance de connaître dès notre arrivée à Tana, premier jour de notre arrivée, on a rencontré le père Sylvain Urfer, un jésuite présent depuis 30-40 ans là-bas, qui a commencé par travailler, œuvrer dans les bas quartiers de Tana, puis qui a été professeur. Et quand on l'a écouté, on s'est dit...
On avait lu aussi.
On l'avait lu, bien sûr. Et il nous a dit le facteur premier de non-développement de ce pays, c'est la culture, les traditions. Alors nous, avec Mia, on s'est dit, bon, là, on entend un religieux, un missionnaire un peu usé par 30-40 ans.
Il est fatigué.
Il est fatigué.
Il manque d'espérance.
Mais bon, on l'a quand même bien écouté. Et puis au bout de quelques mois, on a vite compris qu'il avait tout à fait raison. Parce que c'est un pays mal gouverné, un pays pauvre, mal gouverné depuis le départ des colons, depuis 60 ans, qui s'enlise dans la pauvreté. Ce choc, ça a été un choc. Oui, on se sent vraiment déplacé. Mais aussi avec... un enrichissement personnel très fort.
Vous parlez de choc. Est-ce que votre foi a été mise à l'épreuve ou au contraire renforcée ? Est-ce que ça a été...
Alors, a été mise à l'épreuve du fait aussi que le mouvement des abus de l'Église que nous entendions...
C'était au moment de la sortie du rapport de la SIAZ ?
Rapport de la SIAZ qu'on a connu là-bas. C'était quand on était à Manakar. Eh bien, en fin de compte, Madagascar, c'était idem. Et lors de notre deuxième voyage de 2 mois, un an après, nous sommes retournés, les langues se sont déliées. Et on a récolté beaucoup de confidences, de malgaches, mais aussi de religieux français. Ça nous a fait mal, parce qu'en fin de compte, l'Église malgache aussi est sur les mêmes versants d'abus spirituels, d'abus sexuels.
Qu'est-ce qui fait qu'on garde la foi, malgré tout, l'envie de continuer à s'engager en lien avec cette foi ?
De voir... en action, ces communautés religieuses, les congrégations religieuses font un travail monstre, en brousse, c'est-à-dire c'est les seules présentes. Et c'est là aussi qu'on se dit que le gouvernement, en fin de compte, profite de la présence de ces missions, de ces associations type Pedro, Père Emmerich, mais il y en a quand même de nombreuses, animées par une foi profonde. Alors ils ont la chance, ces gens-là aussi, tous ces religieux, d'être là dans la durée.
Moi, je dirais que ma foi n'a pas été vraiment mise à l'épreuve, mais qu'elle a été renforcée. Notamment parce que j'ai été témoin de la force de la foi des personnes avec lesquelles, de certaines personnes avec lesquelles on a travaillé. C'est heureux les pauvres de cœur qui me vient en premier. Ces personnes qui sont extrêmement pauvres et qui s'appuient complètement sur leur foi en Dieu. Je crois que ça peut faire des révolutions. Je reviens aussi sur la notion de déplacement intérieur. Bien sûr, je ne suis pas restée indemne, notamment quand j'ai vu des familles en situation de famine. C'est ce questionnement fondamental, ou l'impuissance radicale, c'est fort, qui a pu alimenter à certains moments chez moi de la colère, de la révolte contre les injustices. Et puis je me suis dit, par rapport au responsable de la maison d'Artemisia qui a disparu volontairement, qui a volé, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, avec les pressions familiales qu'il subissait de la part de ses frères bandits. Et puis, j'ai envie de dire que j'ai été émerveillée par la capacité de non-dramatisation, capacité de résilience des plus pauvres. Et puis, je reviens aussi sur la soif de formation, cette envie d'apprendre, cette envie de découvrir ce qu'ils n'ont pas pu découvrir parce qu'ils n'ont pas eu de parcours scolaire, parce qu'ils sont analphabètes, parce que ça soutient mon espérance.
Joli mot. Allez, pour finir en une minute chacun, est-ce que vous pourriez nous partager un souvenir fort de ces mois passés à Madagascar, une image avec laquelle vous nous laissez ?
J'ai été très marquée, moi, par deux moments. Donc le premier, c'est la première rencontre avec une dame, Madame Égyptienne, c'est son prénom, pour une sensibilisation et des semis d'Artemisia. Cette femme, qui est infirmière, sage-femme, promise à une grande carrière, qui avait commencé à travailler avec des ONG, a choisi de s'installer en brousse pour soigner les plus pauvres. Ça n'a pas été tout rose du tout, du tout, du tout. Elle a vécu des menaces de mort de la part des gens qui faisaient des soins traditionnels et qu'elle venait déranger, forcément. Mais aujourd'hui, il y a une jolie communauté autour de son dispensaire, le lieu est beau. Et puis le deuxième moment, c'est le lien particulier avec une jeune femme qui ne parle pas français, mais qui comprend un petit peu. Et puis on avait toujours un traducteur quand on avait besoin. Oliva est responsable, dans cette zone d'origine musulmane et arabe, Oliva est responsable de son groupe de paysans-paysannes. Derrière, il y a un papa, Raphaël, qui est un grand monsieur, qui est décédé maintenant, qui parlait français, qui a écrit son histoire, qui a travaillé dans le développement agricole. Et Oliva allait accoucher de son quatrième enfant. Un matin, à 5h, j'allume mon téléphone et je vois que son père, Raphaël, a essayé de me joindre plusieurs fois. Je comprends tout de suite. J'arrive à l'avoir au téléphone. Il me dit « Mylène, viens vite !» Il faut emmener Oliva à la maternité. Il n'y a même pas de piste pour arriver à sa maison.
Il n'y a pas de piste.
Il y a une zone déboisée, mais il n'y a pas de piste. Donc, au plus vite, je réveille son frère qui habite dans la ville. On arrive chez Oliva. Sur la banquette arrière s'installent 5 dames, dont Oliva qui gémit. Et il nous faut bien 40 minutes pour le retour. Je me dépêche, mais en même temps, les chaos de la piste sont compliqués.
On imagine la scène.
On imagine, oui. Donc c'est un exercice, une expérience vraiment intéressante, qui se termine très bien, puisqu'on est arrivé au dispensaire qui fait office de maternité à 7h55 le matin, et à 8h sur la table d'accouchement, le bébé naissait.
C'était 5 minutes.
Alors j'ai su après coup pourquoi il y avait urgence. En fait, Oliva avait perdu les os depuis un moment. Le papa, un petit peu plus instruit, je pense, que d'autres, avait peur pour sa fille. C'était sa plus jeune fille. Enfin, c'était sa dernière fille. Il fallait vraiment que tout se passe au mieux. Et le petit Emmanuel a maintenant 2 ans et demi et il va bien.
On terminera sur cette belle image de naissance. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Belle continuation à vous dans vos différents engagements.
Alors on retourne aussi à Madagascar dans quelques semaines pour moi.